5.
Entendre de la bouche d'un médecin et même d'un chirurgien bariatrique dire que l'exercice et changer son alimentation ne vous empêchera pas de rester gros, ça peut un peu surprendre. Mais il faut vraiment le mettre dans son contexte et c'est avec énorme... J'ai appris bien des choses hier à la lecture de l'article qu'on retrouvait dans Le Soleil concernant le docteur Simon Samson et ses nouvelles expériences qu'on essaie en chirurgie. Simon, j'ai dit Samson, c'est le docteur Simon Marceau, devrais-je dire. Et ses expériences en chirurgie bariatrique. Et j'ai appris aussi qu'est-ce que c'était que l'obésité sévère. Il est avec nous ce matin, docteur Simon Marceau. Bonjour.
Bonjour, M. Cloutier.
Dites-moi.
Merci de m'avoir comme invité.
Ah, c'est nous qui apprécions énormément votre présence parce que là, on va apprendre beaucoup de choses. Il y a des gens qui prétendent, moi, je suis gros, c'est à cause de mes gènes. On est toujours porté à rire un peu d'eux autres et on devrait pas, je pense.
Je pense que vous avez raison. On devrait pas rire de ces gens-là. Je pense que les gens ont une responsabilité, bien sûr, limitée dans leurs conditions. Et tout dépendant du degré d'obésité, je pense que il y a des situations où clairement le métabolisme fait défaut. Et c'est en grande partie l'hérédité, la génétique qui est en cause.
Et vous compariez ça en disant c'est un peu comme le fait d'avoir un gros nez ou des cheveux gris.
Exactement. Je pense que l'hérédité détermine. Les gens n'ont pas de difficulté à comprendre qu'un individu peut mesurer 6 pieds, un autre 5 pieds. Cette variation-là, elle est dans la nature, elle est inscrite dans les gènes. Même dans une famille, on peut avoir des disparités qui sont dures à expliquer, mais qui sont là, et tous comprennent qu'on n'a pas la grandeur qu'on veut avoir, bien que si on s'alimente de façon optimale, on va peut-être arriver à notre plein potentiel, mais les personnes qui ont 5 et 2, ils ont beau avoir très bien mangé, ils ne deviendront pas à 6 pieds 1. Je pense que le surpoids, l'obésité sévère rentre dans ces mêmes caractéristiques-là. Et bien sûr que si on a un environnement défavorable, il va faire que la personne qui a une prédisposition à devenir obèse ou sévèrement obèse va le devenir davantage, mais ne devient pas sévèrement obèse qui veut, ne devient pas sévèrement obèse celui qui se laisse tout simplement aller à mal manger. Je suis, moi, un bel exemple de quelqu'un qui a toujours le même poids à l'âge de 20-30 ans, je mangeais tout croche, je faisais du sport pour le plaisir, sans aucune discipline, et je fumais même, je consommais de la boisson gazeuse, et aujourd'hui, je suis beaucoup plus discipliné, je mange bien, et je fais de l'exercice régulièrement, et mon poids est resté tout à fait stable pendant toutes ces années, et je suis très conscient que ce n'est pas un mérite. C'est une chance que j'ai, et c'est une chance que j'ai héritée de mes parents, bien sûr, et j'en remercie ciel régulièrement, ce que les gens font pas assez, d'ailleurs.
Oui, vous venez de répondre un peu en partie à une de mes interrogations. Moi, ma blonde, docteur, elle mange pratiquement, elle peut manger 2 fois comme moi, elle fait sacrer tout le monde autour d'elle du fait qu'elle est mince, elle a son poids santé, et elle a beau manger toutes sortes de cochonneries, elle ne grossit pas. Dites-moi, est-ce qu'on a déjà analysé qu'est-ce qu'il y a dans l'estomac de ces gens-là? Y a-t-il quelque chose qui fait qu'on pourrait peut-être donner ça à ceux qui ont des problèmes d'obésité sévère, par exemple?
Ben, c'est ce que je souhaite qu'un jour on l'identifie, mais actuellement on peut pas dire qu'on l'a identifié. Il y a une hypothèse plus récente qui paraît peut-être un peu farfelue, qui ne donnera pas une explication globale, c'est certain, mais il y en a qui croient que les bactéries qu'on a tous en quantité astronomique dans l'intestin, par milliards en fait, même milliards par centimètre cube. Alors, on a plus de bactéries dans notre intestin qu'on a de cellules dans notre corps. Et il y en a qui croient que cet équilibre bactérien peut avoir un rôle à jouer dans ce qu'on est capable d'absorber ou non. Ce qui est clair, c'est qu'il y a des variations individuelles. C'est pas parce qu'on mange un Big Mac ou un autre aliment où on dit ça c'est 600 calories que nécessairement la personne qui va le consommer va avoir effectivement dans son système le 600 calories en question. Il y a des gens qui vont l'évacuer naturellement dans les toilettes à une proportion plus ou moins grande. Et même une fois absorbé dans l'intestin, puis ça va dans les veines, le système porte qu'on appelle, qui amène les veines, le sang veineux de l'intestin vers le foie. Il n'est pas dit que le foie va prendre tous ces calories-là et va les gérer de la même manière pour faire le même pourcentage de gras, le même pourcentage de sucre. Et donc, il y a des variations qui sont pas actuellement bien toutes bien comprises, mais qui, à mon sens, toutes ensemble, peuvent faire en sorte qu'effectivement, un individu sans mérite va rester à un poids tout à fait mince toute sa vie, puis un autre, sans l'avoir mérité non plus, avoir souffrir d'un problème d'obésité sévère.
Bon, on a parlé d'obésité parce qu'il y a différents degrés d'obésité. Il y a l'obésité, il y a des gens qui ont un peu un surplus de poids. Qu'est-ce qui différencie l'obésité de sévère des autres types d'obésité?
Bien, on a des critères qui ont été établis déjà depuis près de 30 ans. Lorsque l'Organisation mondiale de la santé a reconnu que l'obésité et l'obésité sévère étaient des maladies proprement dites, on s'est donné des définitions. Les définitions reposent encore aujourd'hui sur l'indice de masse corporelle qui se calcule en prenant le poids d'une personne en kilos et en le divisant par sa grandeur en mètres au carré. Et la raison de cette façon de calculer-là, c'est de prendre en compte la grandeur de quelqu'un parce que c'est pour moduler son surpoids. Mais même cet index-là qui nous dit qu'effectivement, lorsqu'on a un indice de masse corporelle supérieur à 40, on est dans ce qu'on appelle la classe 3 d'obésité, que nous on appelle obésité sévère, morbide plutôt, et à 35, entre 35 et 40, c'est l'obésité de type 2, ou c'est sévère également. Et l'obésité commence à 30. Donc, entre 30 et 35, on a l'obésité de grade 1, 35 et 40 de deuxième niveau, et 40 et plus, le troisième. En chirurgie, nous, on a même des fois des classes supérieures pour les IMC en haut de 50 et 60. Mais il faut comprendre que c'est une façon, c'est une définition qu'on s'est donnée. Alors, c'est pas en passant de 39 à 40 que tout s'écroule. Mais c'est un continuum. Mais il faut comprendre que quelqu'un qui a un IMC supérieur à 40, ça représente à peu près 4 % de la population. Et non seulement en surpoids, mais il a une maladie et il souffre au quotidien de ce surpoids-là. Imaginez simplement, ça représente à peu près au moins 100 livres au-dessus de son poids idéal. Imaginez, monsieur, madame, tout le monde là qui nous écoute, prenez un pack-sac, puis mettez 100 livres dedans, puis mettez-vous là sur le dos. Vous allez vous rendre compte rapidement comment ça peut affecter la qualité de vie. Et c'est ce que ces gens-là vivent.
Les articulations, entre autres, vont subir toutes les conséquences, là, et on va perdre beaucoup de flexibilité. Dites-moi, vous travaillez à l'hôpital Laval, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Institut universitaire de cardiologie, de pneumologie de Québec, à un nouveau type d'intervention chirurgicale.
Oui. Ben, la raison de l'article du Soleil de cette semaine où M. Pelcha relatait mes propos concernant l'obésité morbide, ça concerne un projet de recherche expérimental. Alors, c'est une nouvelle façon, et on est les premiers au Canada, même aux États-Unis, il n'y a pas de centre encore, et qui consiste à placer une espèce de tuyau flexible qu'on place par les voies naturelles, sans faire de chirurgie, sans passer à travers la peau. Donc, on passe avec des instruments d'endoscopie, qu'on appelle, par la bouche, et on installe ce tuyau-là à la portion toute terminale de ce qu'on appelle l'œsophage, ce qui relie la bouche à l'estomac, si on veut. Mm-hmm. Et ce tuyau-là mesure 1,20 m. Et donc, lorsqu'on mange la nourriture, au lieu d'aller de l'œsophage à l'estomac, il passe dans le tuyau lui-même, qui est flexible, la nourriture continue de progresser et va se délivrer plus loin dans l'intestin, de façon à ce que la nourriture soit moins bien absorbée. Mais il y a aussi un effet restrictif, c'est-à-dire que la vitesse d'alimentation doit être modulée, donc forcer un peu, si on veut, les gens à manger à un rythme ralenti. Et si tout va bien, on espère que ce système-là soit résistant au temps, ce qui est une question dont on va chercher de répondre avec cette étude-là. Mais c'est vraiment une étude de sécurité, voir si c'est faisable, si c'est sécuritaire, si ça résiste. Et déjà, notre protocole pour la première phase est complète. Alors, je veux pas que les gens pensent que c'est accessible demain matin pour monsieur, madame, tout le monde qui le voudrait bien. C'est vraiment une expérimentation et peut-être dans 5 ans, ça pourra être offert. Mais actuellement, ce n'est pas du tout.
Les résultats sont concluants, sont bons?
Ben, on est précoce un peu. Ça fait un mois ou un peu plus qu'on a débuté. On a opéré 8 patients sur une étude de 12 patients seulement. Je sais qu'à Hamilton, en Ontario, ils prévoient en faire 8. Et bon, il y a au Mexique aussi. Alors, les résultats à date sont très intéressants pour nous parce que les patients ont cette procédure-là sans complications et ils réagissent bien. La perte de poids est intéressante. Mais on est beaucoup trop tôt pour s'enthousiasmer à outrance. On est juste fiers quand même d'être un centre qui permet d'essayer de faire des avancées scientifiques pour trouver des solutions pour aider ces gens-là éventuellement, peut-être avoir une façon moins pas violente, mais moins dure que la chirurgie traditionnelle qu'on fait actuellement, mais qu'on fait avec grand succès pour le moment, avec beaucoup de résultats positifs sans cette nouvelle technique-là. Peut-être qu'on améliorera les choses avec cette technique-là.
Ouais, et surtout venir aussi en aide à des gens qui, malgré toute la bonne volonté, les efforts qu'ils pourraient mettre, ben leur code génétique, comme on dit, fait en sorte qu'ils n'auront pas de résultats.
Oui, et vous savez, ce qui est dur d'avoir une maladie, d'en souffrir, mais c'est encore plus dur si les gens autour nous regardent en pensant qu'on a entre nos mains la capacité de la guérir, alors que ce n'est pas le cas. Alors l'empathie, la sympathie de l'entourage n'étant pas présent, même les personnes elles-mêmes qui souffrent d'obésité sévère, souvent finissent par croire qu'ils sont vraiment les seuls responsables de leur situation. C'est d'une tristesse incommensurable de voir des gens qui sont en dépression parce qu'ils ont cette impression-là qu'ils ont tout failli parce qu'ils sont comme ils sont, alors que c'est une maladie proprement dite et que les gens devraient avoir l'empathie et ne pas les pointer du doigt comme ils le sont trop souvent, malheureusement.
Et vous avez tellement raison que la première réaction qu'on a entendue de certaines personnes lorsqu'ils ont vu arriver le docteur Barrette comme ministre de la Santé, déjà on disait qu'il pourrait peut-être faire un effort.
Oui, et je pense qu'il fait partie de ceux que j'aimerais défendre parce que je crois vraiment que c'est une condition, c'est une maladie proprement dite et qu'il fonctionne. Je lève mon chapeau parce que je sais les limitations, parce que je vois ces gens-là, je les côtoie au quotidien, comment ça peut être difficile. Et donc, il y a toute mon estime. Et j'admire aussi ceux qui réussissent, et les rares qui réussissent, parce que j'ai dit et je répète que c'est pas à la portée de tous, mais il y a certains individus d'exception, comme des athlètes olympiques qui vont réussir à maîtriser leur condition. Mais les gens les pointent en disant, voilà, il y en a un qui est capable, donc tout le monde est capable. Alors que ça devrait être, oui, des exemples qu'on peut essayer de suivre, mais qu'on doit savoir que c'est extrêmement difficile, puis il y a juste quelques-uns qui vont y arriver. Il faut les féliciter, bien sûr, il faut encourager ceux qui ont cette ambition-là, mais il faut comprendre que 99% des gens ne pourront pas s'y rendre. Donc, il faut aussi dire aux gens qui s'essayent, hey, savez-vous, c'est peut-être un peu ambitieux, un peu comme l'enfant qui veut faire la Ligue nationale au hockey. On veut l'encourager, mais en même temps, il faut à un moment donné lui expliquer, vous savez, il faut aimer le hockey pour le sport, pour le plaisir, et c'est pas nécessairement à donner à tout le monde d'être Wayne Gretzky ou Mario Lemieux. Alors, c'est un peu la même chose. J'aimerais que les gens voient les obèses sévères, les encourager pour essayer que les choses ne remplissent pas en essayant de faire attention à ce qu'ils mangent. Oui, en essayant de faire autant que faire se peut de l'exercice, mais en comprenant tout le monde que c'est pas pour revenir à la normale, c'est pour empêcher que les choses empirent. Sinon, il y a la chirurgie bariatrique et là, nous, on est un centre où on croit on peut aider les gens avec ça.
Je suis extrêmement content d'avoir eu cette nouvelle lumière sur l'obésité, docteur, qu'on ne voit pas ou qu'on n'amène pas souvent à l'avant-plan dans nos différents bulletins de nouvelles. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien ce matin, docteur Marceau. C'est fort apprécié.
Ben, c'est un plaisir pour moi, M. Cloutier.
Passez une bonne journée.
Merci à vous.
Au revoir. Docteur Simon Marceau, Marie-Pierre, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont des problèmes de poids, qui souffrent d'obésité sévère, qui doivent être drôlement réconfortés d'entendre un homme comme ça, et surtout un spécialiste, parler comme on l'entend. Trop souvent, on entend « Ah, quel nom fait de l'exercice qui mange, ben trop le cochon, gars,
c'est
trop cochon! »
C'est de sa faute.
C'est de sa faute. Puis moi, je connais des gens, là, j'en ai proche de moi, mettez... Nourrissez-la toute la semaine, OK? Toute la semaine au McDo. Envoyez-la déjeuner au Tim Hortons, dîner au McDo et souper au poulet frais Kentucky. Pendant un mois, on va prendre pas de livre. Puis évidemment, on va boire un gros kick, un gros verre de liqueur, pas de diète.
Ah oui, il y en a qui peuvent se permettre ça.
Elle prendra pas de livre.
Mais moi, je suis pas comme ça. Là.
Non, j'ai 90% des gens sont pas comme
moi,
ça.
Moi, il faut que je mange mes petites collations santé. Puis même quand je déroge pas, je suis à risque, pareil, de prendre du poids. Tu sais, c'est une mousse, il faut vraiment que je me surveille constamment, là.
C'est pas ça. OK, on s'arrête ici.
Heureusement.
Non. Je vois ça comme ça. OK, on s'arrête ici au retour de la pause.